Nous arrivons au dernier jour de la retraite. En décembre, nous célébrons le grand éveil de Gautama Bouddha. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il convenait que ce dernier mot d'accompagnement s'inspire du Bouddha lui-même. Un jour, quelqu'un demanda au Bouddha en quoi consistait la vie sainte. Voici ce qu'il répondit. L'essentiel de la vie sainte ne consiste pas à obtenir gain, honneur ou renommée, ni à gagner des mérites par l'observance de règles morales, ni à acquérir les fruits de la connaissance et de la compréhension. L'essentiel au moine est la délivrance du cœur. Voilà la signification, voilà l'essence, voilà le but de la vie sainte. Permettez-moi de relire cette réponse du Bouddha. L'essentiel de la vie sainte ne consiste pas à obtenir gain, honneur ou renommée, ni à gagner des mérites par l'observance de règles morales, ni à acquérir les fruits de la connaissance et de la compréhension. L'essentiel, ô moine, est la délivrance du cœur. Voilà la signification, voilà l'essence, voilà le but de la vie sainte. Cette réponse commence par les mots suivants. L'essentiel de la vie sainte ne consiste pas à obtenir gain, honneur ou renommée. Laissez-moi vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai 5 ou 6 ans. Nous habitons Montréal, rue des Érables, près de Rachel. Et j'ai vu à l'épicerie du coin, dans une belle boîte colorée enveloppée d'un plastique étincelant, une ceinture de revolver. Genre western, comme emportent les shérifs et les bandits dans les films en noir et blanc que j'écoute parfois à la télévision. Elle se vend 7 $. Sachant que mes parents n'ont pas assez de sous pour me l'offrir, je me tourne vers ma marraine, qui la plupart du temps ne me refuse rien. Et le tour est joué. Dès le lendemain matin, me voici debout sur le balcon extérieur de l'appartement familial situé en hauteur, revêtu de ma ceinture en simili-cuir, où brillent, bien calés dans leurs étuis, mes 2 revolvers en argent plaqué. Dominant la rue tout entière, qui, j'en suis sûr, retient son souffle en me voyant, je descends fièrement l'escalier, la tête bien haute, et sûr de moi, convaincu d'être observé par tous, de faire l'envie et d'être admiré par tous les autres enfants de la rue, garçons et filles confondus. L'espace de quelques instants, le temps en fait de descendre l'escalier et de m'apercevoir qu'il ne se passe absolument rien, j'ai été le petit king de la rue des Érables. Le courageux shérif sans reproche de mes films en noir et blanc. J'allais protéger mon quartier et tout le monde m'en serait reconnaissant. J'exagère à peine. Comme l'écrit Hubert Benoît dans son livre « La doctrine suprême », ma condition égocentrique, c'est-à-dire centrée sur moi-même, qui comporte la fiction de ma divinité personnelle, me fait considérer comme vide de sens ma vie naturelle et toutes les actions, par exemple manger, respirer, me reposer, m'hydrater, par lesquelles je sers cette vie. Centré sur moi-même, je ne vois de sens qu'à celle de mes actions qui me distinguent. Je ne compte pas à mes yeux en tant que je suis un être humain semblable à tous les autres. Je ne compte qu'en tant que je suis un moi particulier. Et comme on le voit, cela commence très tôt dans notre vie. Nos habitudes de pensée centrées sur nous-mêmes, l'image que nous avons de nous-mêmes, nos manières d'agir et de réagir, les convictions que nous développons à propos des autres et du monde, tout cela se met en place très tôt dans notre développement. Rien de cela n'est vraiment permanent. Cela va et vient en fonction de ce que nous vivons, mais on s'y habitue, cela s'incruste, et l'on en vient même à croire que c'est ce que l'on est. Et comme le dit Hubert Benoît, les seules choses qui comptent à nos yeux dans tout cela sont celles qui nous distinguent des autres, celles qui, selon nous, font de nous une personnalité, un moi particulier et unique. Et parfois, pratiquer le zen peut faire partie de ces choses-là, au même titre que la ceinture de revolver que j'exhibais fièrement lorsque j'étais un jeune garçon. Croyant pratiquer le zen, on s'en éloigne sans cesse. On chasse les mirages que l'on crée soi-même. On porte son zen comme une ceinture de revolver et on rêve de gloire et de renommée. Et comme s'il nous parlait à l'oreille, le Bouddha nous met en garde en nous rappelant que l'essentiel de la vie sainte ne consiste pas à obtenir gain, honneur ou renommée. Comme l'écrit encore Hubert Benoît, en cherchant la paix intérieure de cette façon, on la rend introuvable et l'on se met à adorer une image sans réalité que l'on appelle soi-même. Votre pratique est précieuse. Ne la gaspillez pas en courant vainement derrière des rêves de gloire et de renommée. Des rêves d'extase spirituelle ou de grand éveil. Respirez simplement, inspirez et expirez, puis inspirez et expirez encore. Ou si c'est votre pratique, donnez-vous entièrement votre koan, sans laisser la moindre chose vous en séparer. Face au Bouddha lui-même, face au maître Basso, Rinzai, Joshu, Akuin et devant tous ceux et celles qui ont parcouru la voie du zen avant vous, respirez simplement, avec sincérité et humilité. Cela suffira amplement. Le Bouddha dit ensuite que l'essentiel de la vie sainte ne consiste pas non plus à gagner des mérites par l'observance de règles morales. Rappelez-vous ici le koan dans lequel Bodhidharma rencontre l'empereur Wu. Ce dernier avait beaucoup fait pour le bouddhisme en Chine. Il avait fait construire des monastères et traduire en chinois des textes bouddhistes. Il avait aussi secouru des moines et des nonnes et accompli un grand nombre de bonnes œuvres. La première question qu'il posa à Bodhidharma fut la suivante. Quel est le mérite de tout cela? À l'époque où il animait les ateliers d'introduction au centre, M. Lo racontait cette histoire et il nous rappelait qu'en Orient, tout comme en Occident, l'on croyait communément que l'on allait au ciel à cause de ses bonnes actions et en enfer à cause de ses errements et péchés. L'empereur, en posant sa question sur le mérite de ses propres actions, voulait sans doute recevoir la confirmation qu'il serait un jour récompensé pour tout ce qu'il avait fait. Bodhidharma lui répondit « Aucun mérite, sire. » Et M. Lo continuait en nous assurant qu'un jour ou l'autre, après avoir pratiqué le zen pendant 1, 2, 5 ou 10 ans peut-être, nous poserions nous aussi cette question. Quel est le mérite de tout cela? Que vais-je obtenir en retour de tous mes efforts? Qu'est-ce que tout cela va me rapporter? Qu'en pensez-vous? Vous arrive-t-il de vous poser ces questions? Vous passez des heures assis en zazen, et ce, depuis combien d'années déjà? Qu'est-ce que tout cela vous a donné? Qu'en avez-vous tiré? Comment réagiriez-vous si Bodhidharma lui-même vous répondait « Tous vos efforts ont été inutiles et votre pratique ne sert absolument à rien. » Écoutez bien, tous vos efforts sont inutiles et votre pratique ne sert absolument à rien. Qu'attendez-vous de votre pratique? En attendez-vous quoi que ce soit? On a souvent peur de ces questions. Lorsqu'elles montent en nous, on tente souvent de les repousser dans l'ombre, croyant peut-être que si on les posait vraiment, elles pourraient détruire tous les espoirs que nous avons mis dans la pratique. Il n'y aurait donc aucun mérite à tout cela. Cela ne servirait à rien. Si c'est vrai, comment vais-je jamais me libérer de ma peine immense, diront les poètes. Et le désespoir prend tout à coup sa place. Quoi que vous fassiez, cela ne sert à rien. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Vous imposez à vous-même de suivre des règles de conduite exemplaires, exigez de vous-même une certaine perfection morale, ou pratiquez le zen avec l'espoir qu'en le faisant, vous accumuleriez quelque part des mérites illusoires. Dans le recueil de la falaise bleue, le Hikigan Roku, l'on trouve le koan suivant. Un jour, un moine demanda à Maître Kiyorin, « Pourquoi Bodhidharma est-il venu de l'Ouest? » Cette question du moine est une façon ritualisée de demander « Quel est le sens de la pratique du zen? Pourquoi pratique-t-on? » Et Maître Kiyorin répondit, « S'asseoir longtemps, se sentir fatigué. » Où sont les mérites ici? Il faut des années de pratique avant d'en arriver à une telle nudité, là où il n'y a aucune place pour quoi que ce soit d'autre que ce qui est directement sous nos pieds. C'est la compassion du zen de nous enlever ce qui est inutile et encombrant. Le Bouddha poursuit en disant que l'essentiel de la vie sainte ne consiste pas non plus à acquérir les fruits de la connaissance ou de la compréhension. Voyez-vous, le zen n'est pas non plus fondé sur des croyances ou sur l'acquisition de connaissances particulières. Dans l'un des sutras, l'un des étudiants du Bouddha se plaint, par exemple, du fait que nulle part dans ses enseignements, le Bouddha ne fournit d'explication au sujet de certains aspects fondamentaux de la réalité. Et il insiste auprès du bienheureux pour obtenir des réponses à ces questions. L'univers a-t-il été créé ou est-il éternel? Et son espace est-il fini ou infini? L'âme est-elle séparée du corps? Où est-elle une avec lui? Et lorsqu'une personne meurt, est-ce que tout disparaît avec elle? Ou y a-t-il quelque chose qui survit? Ce sont là des questions que chacun de nous pourrait poser, n'est-ce pas? Et on les pose presque toujours avec l'espoir que les réponses que l'on obtiendra nous permettront de nous rapprocher d'une certaine vérité et que connaître celle-ci nous apaisera, nous donnera une certaine sécurité, qu'elle calmera nos peurs et donnera du sens à notre vie. Or, contrairement à d'autres maîtres de son époque, le Bouddha refusa toujours de répondre. Il disait simplement que connaître les réponses à de telles questions n'est pas essentiel pour se libérer de la souffrance et vivre pleinement. Il savait évidemment que le monde dans lequel il vivait était rempli de spéculations et de théories qui prétendaient apporter des réponses à ces questions. Tant à son époque que maintenant, de telles réponses se vendaient quelques sous la douzaine. Mais en dernière analyse, toutes ces spéculations restent des questions d'opinion ou de croyance, puisque, quoi que l'on dise, l'on ne peut y répondre de façon certaine et définitive. De plus, gaspiller son temps à rechercher de telles réponses qui resteront toujours douteuses, c'est perdre un temps précieux que l'on pourrait consacrer à se connaître et se guérir soi-même. Or, le Bouddha le savait bien, le temps nous est compté et il est précieux. Comme l'écrit Maître Dogen, pratiquer le zen, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est s'oublier. S'oublier, c'est être un avec tout ce qui est. Être un avec tout ce qui est, c'est aller au-delà du corps et de l'esprit. C'est dépasser l'éveil, tout en le manifestant constamment. Où est-il question ici de savoir ceci ou cela? Sans le voir par avidité intellectuelle, l'on s'éloigne parfois de ce qui est au cœur de la pratique spirituelle du zen, soit l'apaisement de notre propre malaise de vivre. L'on se perd en conjectures et en suppositions, sans jamais savoir ce qui est vrai ou faux. L'on s'amuse comme un jeune enfant avec un hochet que l'on appelle la vérité. Et le soir venu, l'on s'étonne qu'il ne reste rien de tout cela. Le Bouddha poursuit encore en disant: l'essentiel, ô moine, est la délivrance du cœur. Voilà la signification, voilà l'essence, voilà le but de la vie sainte. En répondant à la question du moine qui l'interroge sur l'essence et le but de la vie sainte, le Bouddha, par compassion, nous montre d'abord nos propres errements. Il nous rappelle que notre quête de gloire et de renommée, notre désir avide et angoissé d'être un moi particulier, distinct et inégalable, est une erreur. Nous n'y trouverons ultimement que souffrance et dépit. Et nous nous enfermerons de plus en plus dans une forteresse vide que nous nous épuiserons à protéger et à défendre. Le Bouddha nous montre aussi qu'il est vain de réclamer quoi que ce soit en retour de nos efforts. La plupart d'entre nous venons vers la pratique spirituelle, le cœur chargé d'espoir et d'attente. Nous attendons de cette pratique, quelle qu'elle soit, qu'elle nous guérisse et nous réconforte. Et nous consentons à en payer le prix, n'est-ce pas? Au début, l'on croit avoir enfin trouvé un oasis de paix, un refuge inébranlable. On avance, et on recueille les premiers fruits de notre pratique. Puis vient un jour où, comme le dit Saint Jean de la Croix, toutes les consolations et les bienfaits que l'on trouvait dans la pratique s'évanouissent. justice. Où sont à ce moment tous les mérites que l'on attendait du zen? L'on commence alors à douter, le plus souvent de soi-même d'abord, ou bien de ceux et celles qui nous guident sur le chemin, et ultimement du chemin lui-même. Et on le fait avec douleur, habité d'une grande incertitude. Mais si malgré tout cela, l'on continue à avancer dans cette sorte de désert où nos espoirs sont déçus et nos attentes piétinées, alors vient un jour où l'on s'assoit simplement, sans rien attendre, dans une sorte de nuit obscure, où, comme le dit encore Saint Jean, l'on ne désire rien que d'entrer dans la nudité, le vide et la pauvreté totale, en ce qui concerne toutes les choses de ce monde. Et c'est là que l'on peut enfin comprendre Maître Kiorin qui nous dit « C'est simplement s'asseoir longtemps et être fatigué. » Et c'est là aussi que l'on peut comprendre, comme pour la première fois, que rien ne manque. Il n'y a aucun mérite à ajouter. Le Bouddha nous dit ensuite qu'il n'y a non plus aucune connaissance ou compréhension particulière à acquérir pour apaiser notre peine. Il suffit d'entrer en amitié avec soi-même, s'ouvrir à tout ce qui se manifeste en nous lorsque nous pratiquons sur la natte ou lorsque nous vivons notre vie quotidienne. Ne rien refuser de ce qui est et aussi ne rien retenir de tout cela. C'est ainsi que l'on se rapproche le mieux de ce que nous dit Maître Dogen. Pratiquer le zen, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est s'oublier. S'oublier, c'est être un avec tout ce qui est. Donc un jour, quelqu'un demanda au Bouddha en quoi consistait la vie sainte. Et le Bouddha répondit, l'essentiel de la vie sainte ne consiste pas à obtenir gain, honneur ou renommée, ni à gagner des mérites par l'observance de règles morales, ni à acquérir les fruits de la connaissance et de la compréhension. L'essentiel, ô moine, est la délivrance du cœur. Voilà la signification, voilà l'essence, voilà le but de la vie sainte.